Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de découvertes rieuses pour vous, d'une compétition effrénée pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre savoir, sous l'œil d'un invité d'honneur qui à la fin les départage. Invité qui parfois plaît immensément à ma complice Eva Rock, par exemple quand c'est un acteur aussi canon que Nicolas Duvauchel.
Ah ouais.
Et qui parfois lui plaît un peu moins, par exemple quand c'est une chanteuse et actrice hyper sexy, oh, susceptible de lui faire de l'ombre, comme aujourd'hui. Quand Eva a appris qu'on recevait Tamara Mart, alias Scheim, elle a simplement soupiré en déclarant, jalouse.
On dirait Josiane Balasco en plus jeune.
Je suis vraiment désolé, elle est un peu exclusive. Bon, elle est de mauvaise foi. C'est évidemment un plaisir de vous accueillir, ma chère Scheim. Où dois-je désormais vous appeler par votre vrai nom, Tamara Mart?
Comme vous voulez, je me reconnais aux deux.
Alors, comme on est en radio, on va peut-être plutôt partir sur Scheim pour que les gens qui zappent comme ça, ils tombent sur Europe 1, ils comprennent de qui on parle. Mais c'est en effet Tamara Mart qui est créditée au générique de la nouvelle saison de Profilage, la série de TF1, qui démarre demain soir. Et ce sont vos grands débuts en tant que comédienne?
Grand, je sais pas, vous me direz, mais en tout cas, ce sont les débuts. Ouais.
On a mais regardé et on peut vous dire que c'est très réussi.
C'est même étonnant.
Pour une première expérience, c'est incroyable.
Carrément.
Mais je vous avais l'air sincère.
Sinon, on aurait embrayé sur une deuxième question rapidement. Hein. Non.
Et en fait, je suis très contente que vous soyez là, en vrai. Hein. En plus, il s'est rien passé avec Nicolas Duvauchel.
Elle a compris, Eva. Alors, évidemment, on va parler de cette nouvelle aventure télévisuelle, mais d'abord, je vous présente nos compétiteurs du jour. Quand on les voit tous les deux, l'un à côté de l'autre, avec le même air réjoui, une chanson vient immédiatement à l'esprit.
Oh, les champions
à la gauche. Autant l'avouer d'emblée, il est très excité à l'idée de vous rencontrer. C'est un fan qui a hâte que l'émission se termine, qu'il puisse enfin faire avec vous.
Des selfies nues, complètement bourrées.
Un autographe. Vous avez dit un autographe, Anissé. On lui donne ça, il veut toujours plus. Bonjour Anissé Bidard.
Bonjour Mathieu, bonjour Scheim.
Salut.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre expert nouvelle technologie et aujourd'hui Anissé, à quelques heures de PSG Dortmund, vous nous parlez foot virtuel.
Oui, je prends des risques hein, parce qu'on a une icône de la féminité, de la beauté. Moi j'ai pas un sujet bien bourrin.
Bien bourrin.
Le jeu vidéo et le football. Et vous savez que le match PSG Dortmund va se jouer à huis clos ce soir. Eh bien, je vais peut-être vous montrer une petite solution pour supporter son club préféré en restant tranquillement chez soi en jouant à la console.
Ah, vous m'expliquerez comment, parce que là, comme ça, sur le papier, je ne comprends pas.
C'est le teaser.
À ses côtés, Scheim, comme il ne peut pas lutter avec Anissé sur le plan musculaire, il joue chez nous la carte de l'humour. Un humour féroce, de véritables scuds de LOL, des missiles de PTDR qu'il n'hésite pas à lâcher en pleine chronique de son adversaire, comme lundi.
Non, c'est pas un casse-tête compliqué, c'est un puzzle. C'est tout l'intérêt du casse-tête. Plus c'est compliqué, plus on va se casser la tête pour y arriver.
Chinois, le casse-tête. Par rapport au virus.
Voilà.
Bonjour Axel de Tarlé.
C'est une blague triste, comme dit Jérôme Commandeur.
Ça fait partie effectivement de cette catégorie des vannes qui rendent tristes. Vous êtes l'expert économie d'Europe 1 et aujourd'hui.
L'humour.
Et l'humour aussi, mais ça vous essayez. Vous débutez. Et aujourd'hui, alors que les bourses dévissent à cause du coronavirus, vous vous faites l'écho d'un étrange slogan : la récession arrive, vive la récession.
Mais je vais surtout vous expliquer pourquoi le coronavirus peut sauver la planète.
Ni plus ni moins.
La pollution.
Et ça n'est pas de l'humour.
Non, c'est vrai, ça réduit la pollution.
Ça va réduire la pollution.
C'est mon sujet, exactement.
Voilà.
We connect.
Oh mon Dieu. Allez, bien parti cette émission. Allez, l'équipe sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe sauvage.
C'est donc Tamara Mart alias Scheim qui nous accompagne cet après-midi pour la diffusion demain soir sur TF1 d'une nouvelle saison de Profilage, série dans laquelle vous faites donc, on le disait, vos grands débuts de comédienne. Est-ce que, au-delà du fait que c'était votre première expérience de comédienne, c'est facile de rejoindre le casting d'une série qui existe depuis 10 ans? J'imagine que tout le monde se connaît, ils sont tous potes. Comment on est intégré là-dedans?
Ça a été compliqué, mais surtout pour moi perso, quand je suis arrivée effectivement sur le premier jour de tournage, j'avais déjà mes doutes, mes angoisses de devoir faire ma scène comme ça la première fois, de devoir faire son texte devant effectivement une grande assemblée, parce qu'il y a les comédiens, mais il y a aussi toute l'équipe technique. Horrible. Et au final, on débarque devant. On a commencé par des scènes en plus où il y avait tous les protagonistes, donc on n'était pas sur des séquences à deux, etc. Et avec des comédiens de métier, avec des gens qui connaissent leur personnage depuis, vous l'avez dit, 10 saisons. Et puis, bah là, il y a un instinct de survie, de courage. On est là, les micros, on est microtés, on doit y aller. Et puis, la journée commence. Donc, c'est vraiment une question de courage et de saut en parachute. Il faut y aller, on n'a pas le choix.
Vous parlez d'appréhension. Moi, je l'avoue, je vous découvre un peu dans les interviews que j'ai pu lire pour préparer cette émission. Quand on connaît peu Chaim, on a juste l'image de la star. Et on imagine une femme très sûre d'elle. Et on découvre un peu tout l'inverse. Vous êtes très friable, vous doutez de vous tout le temps, on a l'impression.
Beaucoup. Après, oui, effectivement, ça fait 13 ans que je véhicule une certaine image à travers ma musique, assez haute en couleur, ouais. Sexy, etc. Et je crois, en fait, avec du recul, que ce personnage aussi de Chaim, je l'ai créé quelque part, même si, effectivement, c'est moi. Il y a des choses, des traits de caractère que j'ai forcés, etc. Des fantasmes, entre guillemets, que j'ai assouvis aussi à travers Chaim, d'une femme confiante, sûre d'elle. Et au final, oui, je suis remplie de doutes, d'angoisse. Je n'ai pas énormément confiance en moi. Et en même temps, c'est aussi grâce à ça que je travaille beaucoup pour arriver prête sur des nouveaux projets comme profilage.
Mais au point que vous avez l'impression de recommencer une carrière à zéro avec ce boulot de comédienne.
Mais c'est le cas. Je suis arrivée. D'ailleurs, tout le monde s'adressait à moi en me disant Tamara. Enfin, il y avait vraiment un truc de Chaim n'existait plus du tout à partir du moment où je suis arrivée dans cette loge.
Sauf que la scène, elle vous apprend aussi, notamment à bouger votre corps, à savoir comment on se comporte devant un public. Enfin, il y a un jeu aussi
vous
de comédienne un peu quand même.
Dans le jeu. Ou c'est très différent.
C'est très très différent. Et d'ailleurs, les acquis que j'ai par rapport à la danse, etc. Pas forcément un bon côté, parce qu'à chaque fois que j'avais un déplacement à faire, je le pensais comme une danseuse. Juste une marche, paraissait. Elle était trop esthétique, par exemple.
On l'a refait, c'est trop beau.
C'est ça. Arrête de compter, c'est trop en rythme.
Elle débarque dans Profilage demain soir sur TF1. Chaim, ou plutôt Tamara Marthe, est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Réel, virtuel, la frontière est de plus en plus floue avec les dernières innovations. Par exemple, à l'occasion de PSG Dortmund ce soir, saviez-vous que désormais, avec une semelle connectée, vos vraies performances en foot peuvent améliorer les performances de votre équipe dans FIFA sur PS4?
Ah, c'est sympa.
Oui, et ben vous vous en foutez peut-être, mais ouais. Pas nos auditeurs. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Comme dans Danse avec les stars, leur prestation va faire l'objet d'un vote. Sauf qu'heureusement, contrairement à Danse avec les stars, ils ne vont pas danser. Sinon, je vous laisse imaginer le tableau. Eva Rock prenant son élan vers Anis Mbida pour tenter un porté à la Dirty Dancing.
Connard.
Justement, sous le regard émerveillé de Chaim, voici venir.
Émerveillé, je suis pas sûr que ce soit le mot.
Oui, c'est vrai que le mot émerveillé, t'es mal choisi. Voici venir notre premier prétendant à la couronne de chroniqueur du jour, Anis Mbida, qui écrivait hier dans le groupe WhatsApp, où les journalistes proposent les thèmes de leur chronique, ces mots énigmatiques, je cite. Alors ça, c'est vrai, hein. Ok, je fais le foot virtuel. Attention, en revanche, je ne pourrai pas être là vendredi. Je suis avec la sœur de Chaim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anis Mbida?
Mais c'est pas une histoire. Il se trouve que ma belle-sœur, c'est le portrait craché de Chaim. Elle vous ressemble comme c'est pas possible, parce qu'elle s'amuse sur son Instagram, elle même des photos de vous.
Okay,
et je dis, oh, c'est bien, oh, t'as minci, oh, t'as changé de maquillage, j'aime beaucoup ta robe, etc. Et puis, mais non, c'est pas moi, c'est vrai.
Mais j'ai eu peur parce que j'ai une vraie sœur, donc j'ai vraiment une sœur.
Moi, c'est ce que j'avais compris aussi. C'est ce que j'avais compris et j'ai eu peur.
Il est quand même juste en train de nous dire, Anissé, qu'il y a usurpation d'identité.
Oui,
d'une personnalité très connue en plus. Et ça vous ennuie pas.
On l'ennuie systématiquement en disant, mais t'étais pas à danser avec tes stars.
C'est génial,
on a ras-le-bol.
Mais elle peut entrer où elle veut, dans n'importe quel événement, elle entre comme ça, c'est génial.
Non, mais ça l'ennuie. Parce qu'évidemment, chacun veut garder sa personnalité. On n'a pas forcément envie d'usurper sa
Mais en revanche, moi, ça m'arrange. Hein. Il y a des choses dans lesquelles j'ai pas envie d'aller. Donc, si elle veut y aller à ma place.
Alors, Issé, vous nous parlez aujourd'hui de foot et de jeux vidéo. Expliquez-nous.
Oui, alors, c'est une tendance que vous avez peut-être remarqué qui existe depuis quelques années en matière de jeux vidéo. C'est qu'on veut sortir les joueurs, on veut sortir les gamers de leur canapé et faire en sorte qu'ils se dépensent vraiment dans la vraie vie. Vous avez peut-être déjà vu ça avec la Wii, la console Wii. Vous savez, cette console où il y avait des manettes, là on devait gesticuler dans tous les sens et transpirer dans son salon. Ça a commencé comme ça. Et bien désormais, ça arrive dans le foot, dans le jeu FIFA. Et donc, ça fonctionne comment? C'est un tout petit capteur que l'on va mettre dans sa semelle de sa chaussure de foot. Et quand on va être sur le terrain, elle va mesurer les dribbles, les courses, les tirs,
si vous êtes
la
nul.
Vitesse sur le terrain, etc. Elle va tout mesurer, elle va tout enregistrer. elle va tout envoyer dans l'application FIFA et ça va permettre comme ça de donner des bonus à ses joueurs, de donner des bonus à son équipe et puis de gagner des points supplémentaires. Il y a par exemple un défi qui est fait en ce moment, sur le premier défi qui a été proposé, c'est de faire 40 tirs dans la surface de réparation. Donc dès qu'on a fait 40 tirs dans sa surface de réparation,
vous m'avez perdu.
La surface de réparation,
surface de quoi, de séparation,
c'est le petit rectangle blanc.
La surface de séparation, c'est quand vous avez trop joué à FIFA, vous rentrez avec votre conjointe dans la surface de séparation. Un avocat et elle vous dit coco, t'arrêtes de jouer à la console.
Je dis que j'ai pris des risques avec ce sujet, parler foot et tout, le truc bien bourrin.
C'était audacieux.
La surface de réparation, bah, c'est le petit rectangle blanc qui a juste devant les buts, hein, qui montre qu'on est très près du but. D'accord. Et bien si on fait 40 tirs dans cette fameuse surface de réparation, et bien on va pouvoir, ces joueurs vont courir plus vite, ils vont être beaucoup plus précis. Donc ça permet d'améliorer
la
capacité de son équipe.
Ça vous pousse à faire du sport.
Exactement.
Ça vous pousse à ne pas faire que des jeux vidéo. C'est un peu manger, bouger.
Alors moi j'ai une idée justement. Vous savez que ce soir, c'est le fameux match, un match très important pour le football français, puisque c'est les huitièmes de finale, Paris Saint-Germain contre Dortmund. Le problème, c'est que Paris a perdu à l'aller. Votre joueur préféré, je crois que c'est Verratti, suspendu.
Ah ouais ?
Oui, il est suspendu. Mbappé,
il est malade.
Le match a lieu à huis clos, donc Paris est plutôt mal barré.
Bah, moi, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Une petite idée, si on utilisait ce petit système-là, ce petit capteur, et qu'on l'utilisait en compétition cette fois, eh bien, on pourrait l'utiliser pour donner des points supplémentaires à son équipe. Vous savez en tout cas en Formule E, de la Formule 1 électrique, il existe un système où on peut booster, améliorer la performance, donner un petit bonus de performance supplémentaire à son pilote préféré. Comme ça, pendant 10 minutes, il va plus vite que les autres.
C'est comme avoir le champignon à Mario, quoi.
Exactement.
Et bien,
on pourrait adapter ce système, c'est-à-dire que les supporters, plus ils jouent, plus ils remplissent de défis, plus ils ont de points, et bien peut-être qu'on pourra mettre un handicap à l'adversaire. Par exemple, un carton jaune ou un penalty automatiquement. Oh, mais si, c'est comme fou. Ça.
Déjà que Michel Platini ne voulait pas la VAR, alors là, vous lui dites ça en plus.
Mais on dit souvent que le public, c'est le 12e homme dans un match de foot. Serait la véritable. On pourrait transformer vraiment ce public en 12e homme. Et surtout, comme on est parti avec le coronavirus, on va avoir de plus en plus de matchs à huis clos. Et donc, si on peut faire participer les supporters directement chez eux avec leur console.
Mais ils vont devenir encore plus fous. Ces supporters.
Ils vont devenir complètement tarés.
Complètement tarés.
Effectivement, ils sortiront de leur canapé, ils vont se bouger.
Ne soutenez pas la candidature d'Anis Mbida à la FIFA. Ça ne marchera jamais. Merci Anis pour cette belle chronique. Et puis, rapport à ce week-end avec la sœur de Chaim, on rassure évidemment votre épouse, comme le dit Eva, avec beaucoup de conviction.
Oui, il a l'air très fidèle.
Ouais, très fidèle. Ouais, super. À suivre, il va tenter de faire mieux qu'Anis, à qui d'ailleurs il ne jette pas la pierre.
Oui, il n'y a rien de blâmable là-dedans.
Bah, à part qu'il a trompé sa femme, mais ça c'est...
Axel, on sent. Alors Axel, notre expert éco, va nous parler aujourd'hui de cette récession qui nous guette et qui paradoxalement ne devrait pas nous inquiéter. On en parle juste après une certaine Chaim. Et alors, sur Europe
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Douceur du rire, ivresse du savoir, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'un véritable combat de boue entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous l'égide d'une invitée d'honneur aujourd'hui, la chanteuse Chaim, devenue sous son vrai nom actrice Tamara Marthe. On vous retrouve demain dans Profilage sur TF1. Pour vous préparer à ce rôle, vous avez suivi une formation de 3 semaines, c'est ce que j'ai lu. Alors 3 semaines, c'est bien. Eva, elle, n'avait eu qu'un cours de 2 heures pour se préparer à son premier rôle, celui de Morissette Bidochard, charcutière de Ménilmontant pendant la révolution de 1789, dans un podcast natif d'Europe 1, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Forcément, il avait fallu plusieurs prises.
Ah le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir.
Je le refais ou pas? Ah, je le refais?
Ah le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir. Oh le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir. Ah le cochon, qu'on lui passe l'envie de fuir.
Ça c'était la bonne, c'est ça qui est fou.
Ça n'a jamais été prise.
Et le plus fou, c'est que vous avez été coupé au montage.
Vous m'avez fait répéter pendant des heures.
On se demande vraiment pourquoi. Alors en revanche, c'est une première réussie pour Chaim, dans Profilage demain soir sur TF1. Qu'est-ce qui était le plus compliqué, puisque tout était un peu nouveau pour vous dans un tournage?
Ouais, il y a une scène qui était très compliquée, et c'est pas une blague, je devais tourner avec un cochon d'Inde. Et j'ai peur des rongeurs. J'avais un hamster quand j'étais petite, il arrêtait pas de me mordre, etc. Donc je suis restée un petit peu traumatisée. Et le cochon d'Inde est beaucoup plus gros que le hamster. Et donc voilà, je devais le prendre dans mes mains et ne pas lui faire peur, parce que j'avais peur de lui faire mal, etc. Donc il fallait le manipuler avec précaution. Et au final, ça a été un bon coéquipier, un bon collègue. Mais,
il est très bon d'ailleurs, il faut le dire. Hein.
Ouais, il est pas mal, ouais. Ouais.
Alors moi, je pensais que vous alliez nous parler du vocabulaire psychologique que vous avez dû ingurgiter, parce que vous jouez une psychocriminelle.
Ouais.
Et Elisa Bergman.
Elisa Bergman.
Déjà, mon nom est dur à dire. Oui. Elisa Bergman. Alors, je crois l'époque, à chaque fois que je devais le dire, j'étais Elisa Bergman, bonjour. Elisa Bergman.
Et vous avez des pans entiers de dialogue avec un vocabulaire très spécialisé, en fait. Ça n'a pas été compliqué à apprendre ?
Si, bien sûr. Tout a été compliqué. L'apprentissage des textes, évidemment. Moi, j'ai quitté les cours après le bac. Et donc, j'avais 17 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas appris les trucs par cœur. Et puis après, tout l'enjeu est de le dire avec une facilité, bien avec sûr. Une aisance, et que ça paraisse naturel. Et puis, on se rend compte que le texte, il est changeable aussi. On peut se l'approprier.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez pu modifier
bien sûr.
Soit des scènes, soit des dialogues.
Bien sûr. Alors après, une décompensation, ça reste une décompensation. Je peux pas dire autre chose, mais il y a des termes comme ça, effectivement, qui restent. Mais après, on se rend compte que voilà, le but aussi est de s'approprier le jeu, les mots, la scène et également ses vêtements, enfin des choses qui paraissent un peu anodines, mais qui font qu'on se sent plus et mieux dans le personnage.
Il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, je pense qu'aucun comédien, à part Nicolas Duvauchel qu'on recevait hier, qui lui s'en fout, c'est les
scènes. Pourquoi vous ne m'invitez pas en même temps que Nicolas Duvauchel? Je ne comprends pas.
La prochaine fois, on vous invitera tous les deux, mais il faudrait avoir un projet commun, sinon ça va se voir que c'est arrangé comme rendez-vous.
Ça peut marcher. Ça
peut être un concept.
Nicolas Duvauchel, il n'a aucun problème avec les scènes de nu. En revanche, vous, comme beaucoup, c'est quand même extrêmement gênant quoi, d'avoir le perchman comme ça. Enfin, c'est...
Ah ouais. En fait, c'est pas forcément la scène de nu, la première que j'ai faite, je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'est une scène où effectivement qui est très esthétique, où je me retrouve nue, mais un peu cachée, et au final, une fois qu'on est sur le set, on oublie tout, évidemment, l'équipe est discrète, il y a une moitié de l'équipe qui sort, etc. Mais je pense que ce qui m'a le plus intimidée, c'est la scène que je fais avec mon compagnon dans la série, où là, il y a des gestes tendres, affectifs, qui doivent être encore une fois naturels. En plus, on ne joue pas une rencontre, mais on joue une complicité d'il y a des années, donc il faut aussi la sentir. Il y a des nuances dans le toucher, dans les regards, etc. Et ça a été hyper dur. J'avoue qu'il a fallu quelques shots avant de me lancer la première fois.
Ouais, pas autant qu'Eva Rock sur Morissette Bidochard. Hein. Ça a été quand même
non,
plus rapide pour trouver le
problème,
ton juste.
Le problème, c'est que j'avais pas bu. Peut-être que j'aurais pu boire.
Vous auriez dû picoler un petit peu, peut-être. C'est peut-être ça le secret des grands comédiens.
Ça détend.
Vous aimez Chaim, la chanteuse. Découvrez Tamara Marthe, l'actrice. Elle sera demain soir dans Profilage sur TF1 et déjà sur Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
Il a gagné lundi pour la première fois depuis bien longtemps les 2 points du public. Hélas, sa joie a été gâchée très rapidement par la remarque désobligeante de celle qu'on surnomme la langue de pute du vieux Nice.
Eh bien, vous serez peut-être surpris. C'est Axel de Tarlé qui remporte les 2 points avec la piétonisation.
Et pourquoi faudrait-il être surpris quand le public vote pour moi? C'est la question que je pose, Eva.
Aujourd'hui, Axel de Tarlé ne laissera personne lui gâcher la fête. Son sujet semble en tout cas taillé pour la victoire, puisqu'à l'heure où on flippe tous du coronavirus et surtout les bourses, il va nous expliquer en quoi cette période de décroissance économique est une leçon et peut-être même une chance pour l'humanité.
Oh, c'est bien dit, je commence bien, je vais gagner aujourd'hui.
Vous en valez pas non plus, mon vieux.
L'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Soignez vos zygomatiques sans ménager vos neurones. Voilà l'équipe est sauvage. 2 heures où nos neurones sont justement mis à dure épreuve, surtout en ce moment, pour pas se planter dans le nom de l'invité. Entre Chaim, qui venant nous présenter non pas un album de Chaim, mais une série où elle joue sous son vrai nom, Tamara Marthe, et Kali hier, un nom piégeux qu'il faut bien positionner la phrase sous peine de se planter.
Vous en voulez un Kali, café?
Non, j'ai un peu bu d'eau.
C'est bon? Ouais.
On vit vraiment une semaine éprouvante, pathologiquement parlant. Ah là, méningite nous guette. Chaim, Tamara, on continue d'évoquer vos débuts percutants devant la caméra. Premier épisode d'une nouvelle saison de Profilage demain soir sur TF1, je le rappelle. Mais la compétition continue avec l'entrée en piste de celui qui, sous ses costumes Cyrillus de notaire versaillais, cache un véritable côté rock. Oui, Chaim. Dans sa jeunesse, Axel de Tarlé a été lead singer d'un groupe de rock.
Ah, parler dans l'hygiaphone. T'as pas besoin de gueuler, réponds au téléphone.
Ça partait bien, et puis un jour, il y a eu le crédit immobilier à payer.
Je me suis recyclé dans le journalisme économique, avec un succès.
Oui, au moins il a su rester lucide. Axel, aujourd'hui, alors que les places financières paniquent et que la récession nous guette, vous nous faites le coup du « tout va très bien, madame la marquise ».
Exactement, j'essaye d'être positif au milieu de cette information, de toutes ces informations anxiogènes. Avec ce coronavirus, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, il y a un élément très positif qu'on passe sous silence, parce qu'on a eu les chiffres du mois de février, c'est que la pollution en Chine, la Chine qui est le premier pollueur de la planète, la pollution en Chine en février a chuté de 25%. C'est 200 millions de tonnes de CO2 qui ne sont pas allées dans l'atmosphère. C'est l'équivalent de la moitié des émissions annuelles d'un pays comme la France. Mais il n'y a pas que le CO2, il y a tous les polluants qui sont en nette baisse. Par exemple, l'oxyde d'azote qui sort des voitures et les centrales thermiques, moins 30 à moins 50% dans les grandes villes chinoises. À Shanghai, les particules fines, moins 36%. il faut quand même le souligner parce qu'on a l'impression que les émissions de CO2, c'est surtout en Chine, c'est un train fou que personne n'est capable d'arrêter. En un clin d'œil, bah oui, en un mois, on peut faire chuter d'un quart ces émissions.
C'est éphémère. Dès qu'ils vont reprendre, ils vont reprendre.
Très bonne relance. La façon, c'est comment on y arrive. Et vous avez raison. Le drame, c'est qu'on y est arrivé en Chine en arrêtant tout. En arrêtant les aéroports, en arrêtant les usines, en arrêtant les voitures, en demandant aux gens de rester chez eux.
Et en ayant des pertes économiques aussi.
Voilà. Et que va-t-il se passer une fois que le virus sera parti? La Chine va faire un plan de relance et roum, ça va partir.
Là, vous avez imité le bruit de quelle voiture exactement?
C'était pas une voiture électrique.
Une voiture chinoise, une BYD. Ouais. Ouais. Non, ce sont les voitures chinoises qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont arriver bientôt.
C'est bien de la citer.
Il a fait un stage anti-corruption.
Ah, oui, je vois ça, oui. Il cite les marques qui vont débarquer sur le marché européen.
Les futurs sponsors. Et donc, non, mais c'est ce qui est arrivé en 2008. Il y a eu la récession et les Chinois derrière ont fait un plan de relance et les émissions de CO2 ont augmenté de 10%. Donc c'est pour ça que c'est la mauvaise façon d'arriver à cette baisse de CO2, c'est de tout arrêter. C'est au passage ce que proposent tous ceux qui sont décroissants, tous ceux qui disent on arrivera à s'en sortir, on arrivera à sauver la planète, que si on arrête notre mode de vie. Et de fait, ce qui se passe en Chine leur donne raison. Si on ferme les usines, dans le mois qui suit, on retrouve un air pur. Alors c'est quand même une façon assez déprimante de s'en sortir, de tout arrêter. Il y a une autre façon de s'en sortir, c'est ce que propose l'Europe. C'est de dire on va continuer de consommer, on va continuer de prendre la voiture, mais on va le faire sans énergie fossile ni charbon. C'est ce qu'on appelle la croissance durable. Et c'est là.
Mais pas d'un coup de baguette magique qu'on va faire ça, Axel.
Ben oui, c'est beaucoup plus compliqué la solution européenne, mais c'est beaucoup plus positif. C'est-à-dire qu'on va continuer à consommer, on ne va pas interdire les gens de prendre l'avion, on ne va pas interdire les gens de se déplacer, on ne va pas les interdire de manger de la viande, etc. Mais on va le faire de façon durable.
C'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années déjà.
C'est pas le coronavirus qui est un déclic pour
c'est
ça.
C'est ce qu'on essaye de faire.
De rendre les gens éco-responsables et de.
Voilà. Alors c'est toute l'ambition là, de la nouvelle ambition européenne, c'est le Green Deal. Non, mais vous avez raison, je ne réinvente pas l'eau tiède.
Parce que vous nous avez un petit peu vendu le sujet, comme vous aviez trouvé la solution à tous nos problèmes.
Mais non, ce que je veux
je
dire,
dis attention.
C'est possible de sauver la planète, non, parce que la question va être de plus en plus aiguë. Si vous voulez, quand vous voyez ce qui se passe en Australie, les peuples vont demander maintenant à ce qu'on fasse quelque chose pour sauver la planète. On s'aperçoit qu'il y a deux façons de le faire. La façon antidécroissante, comme c'est possible en Chine, on nous le montre, ou la façon à l'européenne. J'ajoute, je termine par ça, quand vous voyez qu'on parle de relocalisation, on se dit mais après tout, se faire avoir tous nos médicaments qui viennent de Chine, c'est pas forcément une bonne astuce. Quand on s'aperçoit qu'on prend moins l'avion et qu'après tout on peut faire des choses à distance avec les télétravail, etc.
Et non pas des télécons. Télécons, nouvelle expression qui regroupe télétravail et téléconférence, c'est vraiment la solution du futur, Chaim. Je vous le conseille. Demain, tous en télécon.
Rien à voir avec les excellentes séries de TF1. Hein.
Bon, je crois que c'était votre chute.
Non, pas du tout. Non, ben voilà, j'en ai plus là. Vous me l'avez spoilé.
On vous a coupé la chic. Hein.
On lui a coupé la chic, Axel de Tarlé. Bon.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut faire chuter les émissions de CO2. Maintenant, il y a deux façons. La façon décroissante, comme c'est le cas en Chine, et l'autre façon plus optimiste, comme on l'espère, ce sera le cas en Europe.
Merci Axel de Tarlé.
Là, j'ai gagné mes 3 points. C'est la même chose que les jeux vidéo idiots, là, avec des smiles qu'elle a fait.
Il est vachement convaincant, avec son truc.
Calmons-nous.
Il n'y a qu'un faucon.
Votre chronique aura-t-elle séduit nos auditeurs et notre invité? Quelle note Chaim estime-t-elle que vous méritez?
3.
Non, entretenons le suspense quand même, Chaim, un petit peu.
C'était ma voix, ça?
C'était votre voix.
Ah ouais.
Europe 1.
À deux doigts du miracle. Hier, dans le quiz quotidien qui l'oppose à l'invité et où elle affiche une triste statistique de 122 défaites d'affilée, Eva est passée à deux doigts du miracle. Le thème était la musique. Son collègue Patrick Cohen ayant eu la gentillesse de l'aider un peu, elle a failli gagner.
Il y a une chanson où tu ne comprends rien, et Les Innocents, un autre Finistère.
Un indice, Finistère, c'est un département.
Eva Rock sera-t-elle plus chanceuse aujourd'hui? Restez avec nous.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour étoffer votre culture G, dégripper vos zygomatiques et éventuellement pour Bibi, se rapprocher finement, tout en douceur, de l'invité. Pour taper dans l'œil de Chaim, l'idéal serait que la régie me tamise un peu cette lumière, que j'arrive à prendre ma voix d'homme, que je place mon anecdote de la fois où j'avais battu le record de l'épreuve de la machine à café dans Fort Boyard, sous le regard subjugué d'Olivier Mune, qui est d'ailleurs bien moins musclé que moi, je le signale. Oui, ça se présente pas mal. Je vais bientôt porter l'estocade en plongeant mes yeux verts dans l'ombre des siens. La seule chose qui pourrait casser mon cou à ce stade, ce serait que mon ordure de réalisateur ait enregistré ma réaction d'hier quand je vous ai expliqué pourquoi j'avais des paillettes sur le visage. Mais non, cette séquence en off où je monte dans les aigus comme Priscilla Folle du désert n'a pas dû être enregistrée. Comment ça, oui? Comment? Ah non! Ah, pas devant Chaim, hein! C'était un pchit magique de ma copine que je mettais, en fait. Et dedans, il y avait des petites paillettes. Il y avait écrit que c'était un désincrustant facial, je sais pas quoi, là. Et en fait, c'est un truc gommant, tu vois. Et sauf que c'était gommant, mais en plus, il y avait des petites paillettes dedans. Voilà. Et donc, j'ai compris dans la douche ce qui s'était passé, en fait.
La vie, comme l'équipe est sauvage, va continuer. Chaim, ce n'est pas tant Chaim que je reçois aujourd'hui, mais Tamara Marc, comédienne de profession, profilage sur TF1 demain. C'est une parenthèse récréative dans votre carrière ou c'est un tournant? Est-ce que la chanson va être mise de côté un moment pour vous consacrer à votre nouveau métier?
Bah de côté, oui, un petit peu parce que ça prend du temps. Donc techniquement, je pourrais pas faire les deux en même temps, mais non, c'est juste mettre des priorités à certains moments de sa vie. Et pour le moment, j'ai découvert un truc qui est évident, qui m'amuse énormément, et la musique me manque déjà, mais c'est pas à l'ordre du jour, quoi.
Est-ce qu'à votre niveau, une artiste est libre de ses décisions, au sens où j'imagine qu'il y a un label de musique derrière vous qui vous dit t'es gentille cocotte, mais il faut que tu sortes un album? Ou vous faites ce que vous voulez. Si vous dites j'ai envie de faire de la télé, je fais de la télé.
Bah, j'ai fait en sorte de mettre dans une écurie qui me met aucune pression et qui me permet d'être libre en tout cas sur toutes ces décisions.
Nul n'échappe à son destin, disait Aristote ou Jean-Claude Van Damme, enfin l'un des deux en tout cas. C'est l'heure du quiz. Time pour le duel du jour et pour rendre hommage à Profilage, nous allons tenter de savoir qui de vous ou de Eva Rock a le meilleur flair policier. C'est un quiz judiciaire, un vrai faux sur le crime. C'est parti. Anthony Garcia fait partie d'un gang californien. En 2008, il s'est trahi d'une façon étonnante. Laquelle? Eva, Chaim, trois propositions. Il s'était tatoué la scène de son crime sur le torse. Son chien a déterré un cadavre dans son jardin. Il s'est fait greffer les dents de sa victime. Le dentiste a tout dit à la police.
Dis-moi que c'est la C. T'as dit A?
Non, moi j'ai
dit A.
Non, j'ai dit B.
Non,
le chien, j'aime bien le chien.
Le chien pour Eva.
Le chien.
Et vous, Chaim?
Tu vous faites pas les dents, Chaim?
Si, je pense que c'est la B, mais je veux dire les dents, c'est aussi la C. Ah. La C, sinon c'est pas drôle.
Eh bien, c'est ni drôle ni la bonne réponse. Vous avez faux toutes les deux.
Ah, c'est la A.
Écoutez. Il s'était tatoué dans le détail la scène de son meurtre.
Mais non.
Or, aucune photo n'était sortie dans la presse. Quand il se fait arrêter pour un autre délit et qu'il est pris en photo torse nu, l'inspecteur fait tout de suite la connexion. Il le met en prison avec des faux policiers chargés de le faire parler. Il ne va pas tarder à se vanter de son assassinat.
Quand on est con,
ah oui.
On est
là,
con.
Je crois qu'on peut
ça,
le dire.
On peut le dire.
En 2016, en revanche, je tiens à saluer Sébastien Bordonnef qui prépare ce quiz. Pour avoir inventé, il s'était fait greffer les dents de sa victime.
C'est
le
horrible.
Dentiste a tout dit à la police. Parce que ça, pour que ça naisse dans l'esprit, il faut vraiment que l'esprit de cette personne soit malade.
Vraiment, eh ben, c'est peut-être lui.
Peut-être lui d'ailleurs. Oui. En 2016, aux États-Unis, dans l'État de Washington, Bizou Doudou Pity Bob Bob se fait arrêter. En quoi c'est insolite? Eva, Chaim, trois propositions. A, c'est une espèce de poisson exotique. C'est la dernière fois aux États-Unis qu'un animal a été condamné. 2, c'est un clown qui a humilié le maire de Washington et il a été en prison pour ça. Ou 3, c'est un homme. C'est juste un pseudo qu'il a choisi pour embêter les policiers.
B.
C'est un clown?
Ouais, c'est un clown.
Eva?
Un poisson.
Un poisson. Alors là, on est face à un cas rare dans l'histoire de cette émission et de ce quiz. Toujours aucune bonne réponse de personne.
Mais c'est génial.
Alors, bisou, doudou, doudou, bip, bop, bop, bop. Il a changé de nom juste pour ennuyer les policiers. Parfois, à cause d'un nom compliqué, une faute de frappe est possible et paf, vice de procédure.
Ah, c'est génial.
Du coup, il a mordu un policier pour se faire arrêter. Pas de bol, la police a utilisé son nom d'avant. Jeffrey Dew. Voilà, c'est original. À Los Angeles.
Par le quiz.
Pas du tout. À Los Angeles, Juan Catalan, comme la crème, est arrêté pour meurtre en 2003. Il risque la peine capitale, mais sera finalement innocenté. Comment? Eva, Chaim, trois propositions. A, il était à un match de baseball et son avocat a retrouvé des images. B, au moment du crime, des caméras ont montré qu'il vendait de la cocaïne 3 km plus loin. Ou C, il a juré sur la tombe de Elvis que c'était pas lui, du coup on l'a cru.
C'est la A et j'ai vu le reportage. Ils ont retrouvé des caméras et c'est grâce à ça qu'il a été innocenté et c'est incroyable, on le voit avec sa fille.
Eva, c'est le moment donné, mauvaise réponse pour perdre le quiz. Oh, B, mauvaise réponse, vous êtes nul Eva. Mais vous êtes vraiment nul à ce jeu. C'est Chaim qui remporte le point. Il était à un match de baseball, effectivement, bah, vous avez raconté le truc. À cause de la qualité médiocre des images, on n'a pas pu le reconnaître lors du premier jugement. Par contre, HBO a tourné un doc et là on le voyait clairement manger un hot dog en public. Merci HBO. En 1995, Klaus braque une banque à Berlin. Pourquoi ça a raté ? Scheim, Eva, trois propositions. Parce que sa mère était dans la banque et lui a filé une rouste. Parce que millionnaire, il a changé... Parce que millionnaire, il a changé d'avis pendant qu'on remplissait ses sacs. Ou parce qu'il était sourd, du coup, il n'a pas entendu l'alarme.
Dis-moi que c'est la C, s'il te plaît.
Et moi, la A, j'adore la mère qui lui met une rouste.
C'est parfait. Mauvaise réponse d'Eva, bonne réponse de Shane.
C'est génial.
Il était sourd. D'après les témoignages, quand un banquier lui a demandé s'il voulait un sac pour mettre l'argent, il a répondu « Bien sûr que c'est un vrai pistolet en allemand ».
Bien sûr que c'est un vrai pistolet.
C'est un peu belge,
ouais,
alors
ça va.
C'est l'Allemagne avec la frontière belge. C'est un endroit étonnant qu'on connaît peu en No Man's Land. C'est vraiment étonnant. Alors, déduisant qu'il était sourd, ils ont déclenché l'alarme. Klaus, évidemment, n'a rien entendu. Il est resté très calme jusqu'à l'arrivée de la police.
Vas-pas-cirque. Je crois que ça, c'est une vraie phrase en plus. Vas-pas-cirque,
hein, mais vous auriez pu tourner dans Papy fait de la résistance. C'est donc Scheim qui remporte notre quiz.
Évidemment.
Je gagne quoi, une journée avec Nicolas Duvauchel?
Je vais vous donner son 06. Allez, je vous donne son 06. 06, 42. La suite en antenne.
Europe 1.
Il est venu nous dire qu'il s'en va et nos sanglots longs n'y pourront rien changer. Lui, c'est Patrick, le premier TGV tout orange de l'histoire de la SNCF qui vient de faire ses adieux à la gare de Lyon-Perrache. Notre correspondant sur place a recueilli ses émotions.
Alors ? On n'attend pas Patrick.
Déconneur jusqu'au bout, ce patoche. On part à sa rencontre juste après Suzanne. Il est où le SAV sur Europe ?
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Shaim est notre équipière sauvage cet après-midi. On vous retrouve demain soir sur TF1 pour vos grands débuts de comédienne dans la série Profilage. Mais avant d'évoquer cette série policière, ma chère Tamara, je retente ma chance. Que diriez-vous d'un petit voyage en train ? Juste vous et moi. Oh les cons, ils essayent encore de me torpiller. On file à Lyon retrouver notre correspondant dans la capitale des Gaules. Bonjour Jean-Luc Boujon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez nous parler, Jean-Luc, aujourd'hui d'une tournée d'adieu, celle d'un certain Patrick, qui a eu lieu à Lyon il y a quelques jours. Mais qui est ce Patrick, Jean-Luc ?
Bon, c'est pas celui que vous croyez. Hein. Désolé Eva, je sais que c'est votre idole, mais celui dont je vais vous parler voilà, n'est pas le chanteur à la voix cassée ou au goût prononcé pour les massages avant les concerts. Non, c'est vraiment pas lui. Patrick, en fait, c'est un peu moins glamour, mais c'est un train. C'est la première rame TGV qui a été mise en service en France en 81. Vous savez, ce TGV orange au nez pointu qui a fait la fierté du pays au début des années 80.
Je ne sais pas, je n'étais pas né.
Voilà, c'est votre
moi,
c'est
j'étais né, je vois très bien.
Et moi, je me souviens aussi. Voilà. Et ben, ce TGV part à la retraite après 40 ans de bons et loyaux services, 14 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 335 tours du monde. Et comme une star qu'il est, et ben, il fait une tournée d'adieu sur un mode un peu nostalgique, tournée qui est passée par la gare de Perrache le week-end dernier.
Et pourquoi on l'appelle Patrick, ce TGV, Jean-Luc ? Parce que c'est un train, quand même, rappelons-le.
Bah, reconnaissez déjà que ça sonne très années 80, Patrick. Ah oui. Donc on est dans le thème.
Oui.
Mais en fait, il y a une explication beaucoup plus simple que nous donne Frédéric Balls, il est conducteur de TGV à la SNCF.
En fait, c'était le prénom du fils du conducteur d'essai de la rame 01 qui a débuté et qui avait donc sa petite sœur qui était Sophie et qui était la 02 parce que c'était les deux rames de pré-série qui ont fait les essais en pleine d'Alsace notamment. Ça servait simplement à avoir des échanges radio plus simples. Plutôt que de donner un numéro de train, on disait Patrick à Sophie ou Patrick au poste de Strasbourg. Voilà, c'était beaucoup plus simple pour les échanges. Puis c'était un peu plus vivant.
Patrick à Sophie, on était vraiment dans les années 80. Marc et Sophie sont deux joyeux amis. Bref. Alors maintenant, que va devenir Patrick ? Parce qu'elle va s'inquiéter, elle me demandait si Patrick allait être démembré. Je lui ai dit non, je ne pense pas.
Ni démembré, ni désossé, on ne va pas l'envoyer à la casse. On va garder deux motrices et un wagon qui iront dans le musée SNCF de Mulhouse. C'est là que le grand public pourra continuer de voir ce célèbre TGV orange. En tout cas, il y a une vraie émotion qui s'exprime autour de la fin de ce train, hein, comme quoi ça parle aux gens, de la part du public, mais aussi chez les personnels SNCF, chez les cheminots, comme François Vieilliard, qui travaille aujourd'hui au département patrimoine de la compagnie. Il se souvient du tout début, écoutez.
Je connais bien Patrick, je connais bien le TGV Sud-Est, puisque j'ai même roulé le premier jour dans la première circulation commerciale le 27 septembre 1981.
À l'époque, ça représentait quoi ? Il y avait une côté fierté nationale, quoi. C'était le Concorde du rail.
C'est de montrer que le chemin de fer sait réagir face au développement de l'aviation, face au développement des autoroutes. L'aérotrain a beaucoup titillé les SNCF et c'est le TGV qui a gagné dans toute cette affaire-là.
Voilà, parce que c'est aussi le moment où le TGV a battu son record de vitesse, à 380 km/h. Et c'est un peu ce que ce TGV nous rappelle, hein, que ce n'était pas gagné d'avance, mais que maintenant on le fait facilement.
C'était passionnant et émouvant aussi, Jean-Luc Beaujon.
J'espère que vous avez versé votre petite larme.
J'ai versé une petite larme. Et demain, Eva nous racontera les débuts du train à vapeur qu'elle a bien connu. Elle était là, l'entrée du train en gare de la Ciotat. C'est elle qui filme avec les frères Lumière. Donc elle nous racontera ça. Merci Jean-Luc Beaujon. Correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Moi, je vous
merci à vous. Europe 1.
Une première page de l'équipe sauvage se tourne. Nos deux premiers prétendants à la couronne du jour, Axel de Tarlé et Anissé Mbida, alias Pipo et Mario, vont continuer de s'engueuler, mais hors antenne.
Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça.
Deux nouveaux journalistes, tout aussi bagarreurs, vont nous rejoindre. Vous êtes, effectivement, vous avez hérité du rôle de Jean-Claude Duss, Axel, effectivement. On va vous expliquer comment on nomme les nouvelles constellations qu'on découvre, et puis on vous assènera une statistique étonnante, fruit d'une étude américaine qui va faire du bruit et probablement sonner le glas de la carrière politique de Christine Boutin. Les couples gays et lesbiens sont plus heureux que les couples hétéros. C'est pas une raison pour me regarder comme ça, Axel.
Où tu veux, darling?
Non, c'est une étude. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos valeureux guerriers de l'info, des journalistes qui ont tout donné et qui ont besoin de souffler, comme moi d'ailleurs. Chaque jour pour vous, je me surpasse. Une centaine d'extraits sonores, des phrases sublimes avec des mots rares, parfois même des adverbes que je vais glaner sur le site Synonymo. Tout ça m'épuise, car les femmes qui me connaissent dans l'intimité le savent, je leur répète assez souvent lorsqu'elles veulent remettre ça une 7e fois d'affilée, je ne suis pas une machine. Et parfois oui, je bug, comme hier, où j'ai laissé échapper ce malheureux lapsus. Notre invité Cali me demandait si Anne Le Gall était vraiment aussi optimiste que je la décrivais. Si je forçais pas un peu le trait. Écoutez, je ne force rien du tout. Oh, ça va ! Que celui qui n'a jamais prêché me mette la...
Il est magique. Il est magique.
Une deuxième heure de l'équipe est sauvage se profile avec deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour. Chaim, vous restez?
Oui. J'ai surtout failli ne pas revenir.
Bah, pour la déconne, cette Chaim. Mais tiens donc, Eva, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous aimez rire et réfléchir, parfois même simultanément, bienvenue dans l'équipe est sauvage. L'émission hybride qui combine compétition journalistique acharnée et humour débridé, un peu comme si Christian Clavier jouait dans Game of Thrones. Pas de quartier entre les journalistes d'Europe 1 qui se mesurent chaque après-midi dans l'arène surchauffée du studio Coluche. Un seul montera tout à l'heure, non pas sur le trône de fer mais sur mes musculeuses cuisses, afin que je le couronne chroniqueur du jour sous l'œil admiratif de notre invité d'honneur. Chaim est avec nous cet après-midi. On danse très bien, mais ce n'est pas la chanteuse qu'on reçoit, c'est l'actrice. Demain soir, dans Profilage sur TF1, on le disait, c'est votre première expérience de comédienne. Chaim, vendredi matin, vous allez avoir les yeux rivés sur l'audience. Comment, ou le plus dur est fait? Le plus dur, c'était le tournage, ou maintenant vous êtes stressée par l'audience?
Non, je vais forcément être stressée par les audiences et je vais être sur mon téléphone dès jeudi soir même.
Ah oui, pour voir ce qu'on dit de vous en direct?
Ah bah oui, non, c'est horrible, c'est ça. Terrible, je sais, mais je suis un peu sado. On a besoin, c'est obligatoire, forcément, on fait
et
des
vous métiers. Connard,
non.
Attends, attends de voir la scène d'après où je suis énorme.
Ouais, non, surtout que c'est les premiers, donc il y a de l'appréhension. J'ai senti l'évolution de mon aisance, du personnage aussi. Donc évidemment, on a envie de commencer la diffusion par les derniers épisodes, finalement presque. Mais ce n'est pas possible. Mais il y a une petite fragilité sur les débuts et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais en même temps, je suis hyper heureuse. Ça fait maintenant un an qu'on a commencé à tourner et on fait des métiers où on a besoin d'avoir l'avis des gens, du public.
Ouais, c'est vrai, donc, vous êtes impatiente.
Voilà, forcément, demain soir, du coup, je vais être un peu sur mon téléphone, quoi.
On continue de parler de Chaim, l'actrice. Juste le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. Face à vous, Chaim, ces lunettes fabriquées à la main en Allemagne de l'Est vous rappellent ces mercredis après-midi où, enfant, vous regardiez Derrick. Voici Alain Siroux, directeur de la revue Ciel et Espace. Il est le consultant scientifique d'Europe 1. Sa mission, simplifier au maximum ce qui est très complexe et non pas, comme parfois, complexifier au maximum, ce qui est très simple.
L'étoile est au centre, on transforme la lumière en micro-ondes, lesquelles alimentent les machines des espèces intelligentes qui vivent dessus.
Bonjour Alain.
Très simple.
Très simple, on a tout suivi. Aujourd'hui, chronique Girl Power. Longtemps ignorée, les femmes scientifiques sont en train de prendre leur revanche.
Mais oui, j'ai profité de votre présence, Shaim, pour regarder s'il y avait beaucoup de femmes dans le ciel, ou en tout cas beaucoup de regards de femmes. Et je me suis rendu compte que le milieu de l'astronomie était très masogyne.
Très macho
et misogyne.
Sauf sur Vénus. Ah. Et je vais vous parler de Vénus, une planète de femmes.
À ses côtés, Shaim, justement, une femme libérée qui vit avec son temps. Dynamique, heureuse au travail et épanouie dans son couple. Son secret, chaque jour, une position du Kama Sutra.
J'ai fait le chou-fleur rôti l'autre jour.
T'as pris des photos, j'espère. Bonjour, Eve Roger.
C'est littéral, j'ai fait le chou-fleur rôti, en vrai. Bonjour, Mathieu, bonjour à tous.
Qui est très bon, d'ailleurs.
Ouais, délicieux.
Ça dépend avec qui. Bon. Vous êtes chef du service société d'Europe 1 et c'est à ce titre que vous nous révélez une étude qui va méchamment clouer le bec à Frigide Barjot et tous ses amis de la Manif pour tous aujourd'hui.
Absolument, c'est une étude américaine publiée dans le New York Times qui nous dit que les couples gays sont bien plus heureux que les couples hétéros et je vais vous expliquer pourquoi avec mon couple témoin, Julien et Clément.
Est-ce que vous nous le direz aussi, mais j'ai déjà envie de savoir, est-ce qu'ils durent plus longtemps? Parce que moi autour de moi, les seuls couples gays que je connais, ils durent beaucoup plus longtemps que les couples hétéros.
Ah bah oui.
Mais bien sûr, parce qu'ils finissent par plus vivre à deux vraiment.
Ah bon?
Oh.
Forcément.
Mais...
Ah, pas forcément. Ouais, ah non, ouais. Moi, ceux que je connais, pas du
non,
tout.
Mais c'est très positif ce que je viens de dire. C'est que, mais oui, non, mais il y a une espèce de liberté dans le couple. Enfin, en tout cas, tous mes potes, c'est comme ça. Hein.
Vous aurez des précisions.
Il doit y avoir une.
En réalité, il y a tous les cas. Tous les couples gays ne sont pas libres.
Oui, heureusement. Mmh. Heureusement.
On va en parler. Merci, Eve Roger. Alors, le bonheur des couples gays ou bien la vengeance des femmes scientifiques, quel sujet vaincra? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous, Shaim? Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité. Voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on a tout laissé en vrac.
Bonsoir, Shaim. Ouais, Shaim. Ouais.
Bah oui, je la connais, mais c'est la base.
Elle est grande, mince, métisse, elle est jolie.
Elle n'a qu'un défaut, c'est sa musique.
Non, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Ouais, je trouve que c'est assez gay, assez entraînant.
Elle a un style, elle a un style américain, on va dire. Voilà.
Elle dégage de l'assurance, de la prestance.
Toujours des tenues un peu. mais qui reste quand même. Et ça lui va bien. Elle peut.
Je sais qu'elle a essayé de faire un saut dans le public et ça a pas marché.
Pam, 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 nanan, c'est ça?
Qu'est-ce que ça fait? Nanan, ouais, c'est bon.
Et à la fin, ça fait je suis une femme de couleur.
Shaim, c'est comme Shakira.
Mais je l'ai vu aux enfoirés. Elle est cool.
Shaim, je te passe un bisou. T'oublies pas moi.
Shaim, je l'aime.
Alors Shaim, les gens vous aiment.
C'est les montagnes russes, hein, ça. Hein.
Ouais,
tu passes du rire aux larmes.
Enfin,
ouais.
Globalement, quand même, les gens vous
non,
aiment.
C'est hein, mignon, ouais, oui.
Franchement, on a
oui.
eu pire comme micro-trottage.
Ah, oui.
Il faut revenir quand même sur cet incident en concert qui vous avait valu pas mal de moqueries à l'époque. Quand on saute dans une foule, Shaim,
oui.
moi je le fais chaque vendredi quand on est en public. Il faut jamais miser sur le public. Il faut payer les gens pour vous réceptionner. Ils vont pas spontanément se foutre dessous.
Ils l'ont toujours fait gratos. Normalement, ça fonctionnait à chaque fois. C'est juste que là, faut le rappeler, c'était le lendemain des attentats, donc
ah, ouais.
on était tous sur une planète un peu irréelle, et surtout que moi, avant de sauter, je prévenais les gens. Mais vu que là on était dans une espèce de transe, bah, j'ai sauté sans rien dire. Donc forcément la réception a été un peu foire.
Vous êtes fait mal d'ailleurs. Hein.
Mais non, je suis pas tombée en plus.
Comment
j'ai pas atterri au sol quoi. Les gens m'ont réceptionné au dernier moment, donc d'en bas.
Ce qui est pas le cas de Cali qu'on recevait hier, qui nous a raconté s'être cassé le tibia,
cassé,
démonté
lui.
Les épaules.
Ah ouais,
et parce
mais ça
qu'il
peut être hyper dangereux. Mais
à chaque concert.
S'il faut un courage énorme déjà pour le faire, je peux vous dire
oui.
que la première fois que je l'ai fait, ça faisait un an que je fantasmais là-dessus et je me dis bon allez j'y vais, il y a mon père dans la salle, je me lance.
C'est tellement le bonjour.
C'est tellement le bonjour. Et ben franchement. Je peux vous dire que ça fout les boules quoi.
Donc vous le ferez plus?
Ah si, je l'ai refait le lendemain.
Ah bon, le lendemain? Et ça s'est bien passé?
Ah ben très bien, j'ai prévenu les gens et puis,
là,
mais c'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter dessus tout de suite hein.
Elle est chanteuse, mais plus seulement. Vous allez la découvrir demain dans Profilage, la série de TF1. Shaim est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, ce n'était qu'une intuition que j'avais eue lorsqu'on avait reçu Bruno Salomon.
Pour pas chatouiller soi-même.
C'est vrai que ça ne marche pas, ça. J'ai déjà essayé pour me divertir. On pourrait essayer tous les deux.
Ça pourrait être sympa, d'ailleurs.
Une étude américaine le confirme, les couples gays atteignent plus facilement le bonheur que les couples hétéros. Eve Roger nous explique pourquoi.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. Shaim passe certainement un merveilleux moment.
C'est une réalisation entre guillemets de fantasme.
Oui, on n'en fait pas trop non plus. La grande compétition des journalistes d'Europe 1 continue avec l'entrée en lice d'une chef de service. On est tous au garde à vous pour Eve Roger, chef plénipotentiaire du service société. Une journaliste qui passe sa vie à prendre le pouls de nos habitudes, de nos mœurs. Elle a réponse à tout. À quoi pensent les femmes
femmes durant l'amour? À quoi pensent les hommes durant l'amour? Comment reconnaître un pervers narcissique? Ou, plus prosaïquement, comment sélectionner un bon amant?
En fait, il faut le prendre, et si la main est pleine, c'est pas bon.
Ah oui, ça se trompe pas. Hé Roger, ce soir, vous nous parlez d'une étude américaine qui va faire grincer des dents, et tant mieux.
Oui, alors c'est une étude, donc je vous l'ai dit, dans le New York Times, repris cette semaine dans le magazine Elle, et c'est un sociologue de l'université du Texas qui a demandé à 350 couples, des gays, des lesbiennes et des hétéros, de faire un journal intime et de noter leur joie, leurs difficultés, les tensions conjugales et le stress qu'ils éprouvaient à cause de ces tensions. Et le résultat est sans appel. Un, les gays sont beaucoup plus heureux en couple que les lesbiennes, qui sont elles-mêmes plus heureuses en couple que les hétéros. Et si on rentre dans le détail, ça donne donc les plus heureux les gays, suivis des hommes hétéros, ensuite des lesbiennes et en toute fin de liste, qu'est-ce qui reste?
Les femmes hétéros.
Et voilà, qui sont-elles le plus en souffrance? Ce sont elles qui éprouvent le plus de stress post-marital.
Vous m'avez écrit une très belle relance, une de vos plus belles. C'est votre prose, vraiment dans ce qu'elle a de plus sublime. Alors pourquoi?
C'était pour vous faire intervenir. Eh bien, la première raison, et ça nous semble une évidence quand on le sait, c'est à cause des tâches ménagères. Et oui, dans les couples gays, il y a un partage équitable des tâches domestiques, de la vaisselle, des courses, de la lessive, tout simplement parce que d'habitude ces rôles-là sont assignés aux femmes.
Enfin, Eve, on est en 2020. Hein. Moi, si je range pas la petite cuillère dans le lave-vaisselle ou que je nettoie pas le verre, je me fais défoncer. Hein.
Mais t'as une copine, ça veut dire?
Oui.
Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait, t'es une copine.
Ah ouais, vous savez, rien ne m'arrête.
Ok, ok. Non, mais je d'accord. Il bouffe à tous les râteliers, quoi.
Ah là là, il s'est dévoilé.
Je suis démasqué au détour d'une réflexion.
Il est rouge.
Je suis rouge comme une tomate enchaînée, Eve Roger.
Donc, je disais.
Le diable est dans les détails.
Donc, naturellement, on s'en doute, dans les couples gays comme dans les couples de femmes lesbiennes, il n'y a personne n'est assigné à un rôle. Et donc, le partage des tâches se fait beaucoup plus facilement. La preuve par le son et mon couple témoin, Julien et Clément, 32 et 26 ans, mariés depuis un an. Écoutez.
Naturellement, l'un comble les tâches lacunes de l'autre. S'il y en a un qui repasse, ben l'autre il fait la cuisine. Si l'autre est dans la salle de bain, l'autre fait le salon. Et si l'autre fait la machine, ben l'autre fait la chambre. Clément m'a toujours dit qu'il aimait cuisiner, moi j'aime pas du tout ça. Et qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a fait une fois un gratin et que du coup, c'était tellement catastrophique que maintenant, c'est moi qui me colle à la cuisine. Pour
vous voyez, ça, on se ressemble tous un peu hein, quand même. Alors donc, je vous rappelle les chiffres, Mathieu. En France, les hommes ont évidemment progressé, mais les femmes consacrent 1h20 aux tâches ménagères, contre 55% quand même pour les hommes. Donc c'est quand même quasiment deux fois moins.
Enfin, et là, vous avez dit 1h20 et 55%, ce n'est pas, pas la même
minutes,
unité de mesure.
55 minutes. Donc de toute façon, il n'y a pas d'égalité des tâches domestiques. Et c'est pareil pour les enfants. 75% quand les enfants, les gays aussi des enfants, 75% ils sont à égalité dans le partage des tâches. Chez les hommes et les femmes hétéros, c'est 38%, Mathieu. Donc il y a encore des progrès à faire.
Il y a encore des progrès à faire. Mais qu'est-ce qui explique encore le bonheur conjugal quand on est gay?
Alors on le dit souvent, mais moi je ne souscris pas, mais l'étude le confirme, c'est que les femmes, elles aiment plutôt partager des sentiments et les hommes plutôt... des informations, c'est-à-dire que les hommes, ils n'aiment pas trop, ils ont une forme d'intériorité qu'ils n'aiment pas trop dévoiler, pas trop de démonstration des sentiments. Et donc, effectivement, alors quand vous avez deux hommes qui fonctionnent de la même façon, eh ben, il n'y a pas de frustration. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui dit, s'il te plaît, soir, au coucher, et dis-moi pourquoi tu m'aimes vraiment, enfin, des trucs comme ça, qu'on dit, ah, moi, je ne suis pas... fan de cette théorie-là, mais elle s'applique. Et ce qui est drôle, c'est que dans les couples de femmes lesbiennes, eh ben effectivement, elles se plaignent d'une espèce de surcharge émotionnelle parce qu'elles sont deux à avoir beaucoup d'émotions à partager.
Et alors, question importante, c'est une relance encore plus gratinée. Et le sexe?
Eh ben voilà. Une nouvelle raison d'être mieux loti si on a un couple gay plutôt qu'un couple hétéro. Et là, la démonstration est assez simple. Les homos ne sont pas systématiquement libertins ou en tout cas libres, comme vous le disiez, Cham, tout à l'heure. Il y en a de tous les genres. Mon couple témoin, alors c'est exclusivité totale. Hein.
J'ai plein de couples témoins de potes, qui c'est le cas.
Bien sûr, bien sûr.
Plein, mais même ceux qui ne le disent pas.
Elle a des infos là-dessus aussi.
Alors imaginons un couple quand même qui est exclusif et qui prend la fidélité. Et ben, les homosexuels, ils parlent plus facilement de sexe malgré tout, de leurs désirs, de leurs envies, des interdits, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'ils ont effectivement plus l'habitude de parler de sexe. Alors que chez les hétéros, encore aujourd'hui, ça reste un peu un sujet tabou. On ne parle pas trop, on ne dit pas trop ce qu'on veut, ni comment on le veut. Et donc, résultat, on accumule frustration, non-dits, des implicites qui un jour finissent par éclater. Et nos deux tourtereaux, donc Julien et Clément, mon couple témoin, ont aussi leur explication à eux. Pourquoi le sexe est mieux entre gays qu'entre hétéros?
Dans les couples hétéros, c'est qu'en fait, l'homme peut avoir des inconnus au niveau sexuel de la femme, parce qu'en fait, son appareil génital est différent, son plaisir est différent, etc. Alors que nous, vu qu'on est du même sexe, sexe, en fait, ce problème est déjà résolu parce qu'en fait, on fonctionne, on va dire, de la même façon, ce qui n'est pas forcément le cas dans les couples hétéros.
Qui se ressemblent, s'assemblent, en gros. Hein, c'est ça la conclusion de l'étude.
C'est imparable.
Et il y a juste, sur les lesbiennes, alors les lesbiennes, en fait, elles se disent souvent déçues et stressées par leur compagne, du point de vue sexuel, mais je n'ai pas trouvé l'explication. Et donc, à votre question, elles divorcent en réalité plus souvent que les hommes gays.
Ah oui. Mais peut-être parce qu'il y a une masculinisation quelque part aussi dans les couples lesbiennes qui n'existe pas chez les gays. Je sais pas si je peux dire des mots, il était un peu trop tôt ou quoi, mais
non.
D'avoir un gars de ceinture par exemple, il y a quelque chose de masculin dans la relation lesbienne.
Tout
à fait. Je l'ai sorti, je pouvais pas le dire, j'ai mon regard bizarre.
C'est la première fois que le mot gars de ceinture est prononcé sur Europe 1 pour 16h18.
Avec Maya Mazorette, on a bien dû parler.
Oui, c'est vrai, c'est possible.
C'est un débat hyper intéressant, mais je crois qu'au final, effectivement, d'avoir des corps qui se ressemblent et d'avoir des cerveaux qui se ressemblent entre hommes ou entre femmes, il y a quelque chose de peut-être plus facile, plus instinctif, moins de tabou, moins de frustration, moins de gêne aussi. Et c'est certainement au-delà du côté libertin, etc., qui n'est d'ailleurs pas une notion négative, mais il y a des choses qui sont peut-être plus assumées. Et peut-être plus simple, effectivement, qui nous ressemble plus en tant qu'individu.
C'est dans la droite ligne. C'est dans la droite ligne de quand vous défendiez le mariage pour tous.
Absolument. Ouais.
Shaim, je crois que c'est une chronique qui vous a plu.
Ouais, beaucoup. Elle est dans mon top one.
Elle est dans son top one. C'est un petit indice, mais tout n'est pas joué.
Europe 1.
À suivre, Shaim, elle est l'expert média la plus déjantée de la bande FM. Eva Rock nous dira quoi regarder sur les écrans ce soir. Eva, avec qui vous avez passé une soirée le week-end dernier, m'avez-vous dit hors antenne?
J'ai adoré de voir une nana française qui arrive et qui ose se mettre en culotte et twerker caméra sur son cul, quoi. Je trouvais ça hyper audacieux, hyper couillu, et il y a quelques années, on était incapable de faire ça.
Ah, et ça, c'est ma Eva. À l'antenne, elle est un peu timide, mais en reçoit, elle se lâche. Retrouvez ses conseils télé juste après Cosmic Girl, Jamiroquai sur
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
4 journalistes, une seule couronne de chroniqueur du jour, un vote qui se terminera par un sacre et par un...
Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Oui, vous écoutez L'équipe sauvage, l'émission où le journalisme rencontre le survivalisme. Survivalisme que notre invité d'honneur connaît bien, puisque Shaim, on s'en souvient, en 2017, vous êtes parti dans l'Himalaya avec Mike Horn, le plus célèbre des aventuriers. Moi, je l'ai croisé une fois, il m'a serré la main. Ça veut dire que
je
n'ai pas envie de partir avec lui, où que ce soit. Comment ça s'est passé?
Ah, c'était fou, je me souviens de sa poignée de main aussi à notre rencontre, et surtout les secondes qui ont suivi où il me faisait déjà grimper sur une pente horrible. Ça a été, au-delà des 5 jours passés avec lui pendant le trek, ça a été 10 jours vraiment coupés du monde, avec la découverte d'une culture complètement inconnue, avec une non-accessibilité à mon téléphone, à ma famille, etc. Donc ça a vraiment été un voyage thérapeutique, et puis ces 4 jours à beaucoup marcher, à très peu manger et à être très silencieux aussi, parce que ça a été l'une des vertus que j'ai découvertes avec Mike Horn. Pas forcément, mais d'être à l'aise dans le silence avec un inconnu, c'est très rare, et c'est là où ça devient thérapeutique. Et voilà, c'est quelqu'un de rare, c'est un homme formidable, et on apprend énormément avec lui, et ça restera l'une des aventures de ma vie.
De toute façon, avec Mike Horn, il vaut mieux pas moufter. Hein. Moi, je dirais rien non plus.
Il faut être un soldat.
L'émission était formidable, vraiment.
Et ça,
en
c'est une émission qui a reçu le label Eva Rock. Saviez-vous, Shaim, qu'aujourd'hui, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix le soir?
Que 17?
Bonne réponse. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagner.
Non, je voulais vous faire partager un coup de cœur pour une très jolie série qui est intitulée Une belle histoire, qui est signée Frédéric Krivine, à qui on doit notamment Un village français, et qui sera diffusée ce soir sur France 2 à partir de 21h05. C'est 8 épisodes autour de 3 jeunes couples d'amis. Alors, il y a ceux qui s'ennuient déjà dans leur relation et qui regardent un peu ailleurs. Il y a ceux qui attendent avec impatience leur premier enfant. Et puis, il y a David. David, il ne s'est pas remis de la mort de sa dulcinée jusqu'au jour où il va enfin croiser le regard et le chemin de Charlotte.
Ah, super bien, ouais. Plus de boulot, plus d'appart, le rêve de l'homme moderne.
Putain de merde!
Bah, attendez, on va vous aider.
C'est la fille de ce matin?
Moi, ça fait 5 ans que je t'avais pas vu mater une fille comme ça.
Ok, super. On peut passer à autre chose?
J'ai vu comment elle te matait.
Elle est comment?
Elle est maquée.
À nous.
Enfin, une comédie romantique ultra réussie grâce au travail ciselé des dialogues et puis aux comédiens qui sont formidablement bien dirigés. La palme revient pour moi à Sébastien Chassaigne dans le rôle de David, mais aussi Tiphaine Davio dans celui de Charlotte que vous avez entendu. Et puis surtout, elle est réussie parce qu'il y a de la nuance, il y a du réalisme. La série, elle transpire la sincérité. Il n'y a pas de place pour la caricature. C'est de l'humour et de la tendresse. Et puis chaque situation met en avant quand même la complexité des histoires d'amour qui ne se finissent pas forcément mal en général, mais qui se concluent rarement par un happy end. La première scène est totalement bouleversante, je vous aurais prévenu, et même la bande originale est réussie. Alors là, vous entendez Michel Fugain parce que ça accompagne la série, mais il y a plein d'autres morceaux. Vraiment, regardez ça, ça s'appelle Une belle histoire, c'est sur France 2 à 21h05 et il y a 8 épisodes.
On sent que ça vous a redonné l'envie d'aimer, comme disait Daniel Lévy.
Il faut juste que je trouve la personne à aimer. Mais oui,
Daniel Lévy, c'était Daniel, le chanteur du Dix Commandements.
Oui, oui. Non, c'est pas Marc.
Marc Lévy, j'ai douté. Mais Marc Lévy l'a certainement dit aussi. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir. Si ça vous a fait du bien, ouais, ça vous fera du bien aussi. 17 minutes de gagné.
Europe 1.
La méthode de drague a beau être éculée, Alain Siroux va quand même la tenter. Parler des étoiles à Shine, notre invité. L'Union Astronomique Internationale vient de nommer de nouvelles constellations. Mais justement, comment ça se passe? Qui décide de ces noms? Alain vous explique. En attendant, histoire de faire déjà connaissance, je vous renvoie à son profil Tinder, Cosmic Siroux, où il décrit ses centres d'intérêt.
Majoritairement cosmologie, astrophysique, espace, mais curiosité totale.
Non, bah, à tout de suite, Cosmic Siroux.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'infos, de rire, mais aussi parfois de règlement de compte. Ça fait longtemps maintenant qu'Alain Siroux, notre spécialiste ciel et espace, rêvait de recroiser la route de notre invité Chaim, qui l'a privé, on peut le dire, de son rêve. Car Alain aime le ciel, l'espace, mais aussi le tango. Et au casting de Danse avec les stars, il avait tout donné, guidant sa partenaire avec maestra et précision.
En avant, à gauche, en avant, à droite.
Hélas, TF1 avait choisi Chaim, certainement pour des raisons politiques. Alain, un mot pour la direction de TF1?
Asshole.
Merci.
Oh, c'est génial. Qui c'est qui fait ces montages là?
C'est moi.
C'est formidable.
Non, je salue Sébastien Bordenave qui retrouve les sons et qui c'est lui aussi qui a préparé le quiz.
Incroyable.
Et dire un petit peu. Chaim, vous cumulez vraiment plusieurs casquettes. Vous êtes chanteuse, danseuse, vous avez été animatrice de La Nouvelle Star, gagnante puis jury de Danse avec les Stars. Vous avez lancé une collection de maquillage. Vous êtes maintenant comédienne, on vous retrouve demain soir sur TF1 dans Profilage. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous rêvez de faire?
Bien sûr, continuer la musique déjà, de faire du cinéma également, plein de choses, de faire un enfant, voilà, il y a encore plein de choses à réaliser.
Qu'est-ce qui est le plus proche, faire un enfant ou faire du cinéma?
Cinéma, j'espère.
On continue de papoter, mais mieux que quiconque, vous le savez, la compétition n'attend pas. L'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, Alain Siroux, pour qui vous avez déjà, je le sens, une certaine tendresse.
J'ai toujours aimé les gens différents.
Oui, je le prends comme un compliment. Alors Alain, ce soir, le titre de votre chronique est pour le moins accrocheur, « Quand les femmes montent au ciel », avec vous ou de manière plus générale?
Non, de façon littérale, puisque en fait, quand vous regardez le ciel, il y a plein de noms dans le ciel. Bon, il y a des noms de constellations, Andromède, c'est une femme, et vous regardez la Lune. La Lune, par exemple, les cratères, il n'y a que des mecs. Regardez, j'ai amené une carte de la Lune. Grimaldi, Copernic, Kepler, Aristarque, c'est que des hommes, quoi. C'est
les scientifiques,
que des scientifiques, parce que c'est des astronomes. Et la plupart des astronomes sont des hommes, ou en tout cas, ils ont caché les femmes.
Comment ça, ils ont caché les femmes?
C'est-à-dire que les femmes ont été considérées comme des calculatrices prodiges au service des hommes. Marie Curie, lorsqu'elle a eu son prix Nobel avec son mari, sur le prix Nobel, c'est marqué Monsieur Curie et son épouse. Tous les deux ont eu le prix Nobel, c'est extraordinaire. Donc, il existe, en fait, pour nommer dans le ciel... Alors non plus des constellations des étoiles, parce que ça se fait plus, il y en a trop. Mais surtout des endroits, quand on découvre par exemple sur, je sais pas, on prend un satellite, Io, Europe, Ganymède, on découvre des cratères, on découvre des montagnes, on découvre des patères, etc. Vous avez le droit, je dirais, de donner des noms.
Qui, nous, on a le droit?
Alors non, c'est l'Union Astronomique Internationale, et c'est une commission qui est géniale, qui s'appelle la Commission de la Nomenclature.
T'as une mafia, quoi.
La Commission de la Nomenclature Céleste. Non, qui a un guide, en quelque sorte. Là, on va donner des noms de dieux, de femmes, d'humains, liés au feu, à l'eau, au vent, etc. Et sur Vénus, On a décidé que c'était les femmes. C'était la planète des femmes.
Que des femmes sur Vénus.
Que des femmes sur Vénus, parce que Vénus, c'est la déesse de la beauté. Jusqu'à ce qu'on découvre, finalement...
Il y aurait peut-être le cratère
Scheim. Alors, il pourrait y avoir le cratère Scheim.
Il n'est pas très élégant, d'ailleurs.
Il pourrait y avoir le cratère Scheim si on redécouvrait, si on découvrait...
J'ai voulu être romantique, mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Alors, justement... On découvre régulièrement, en envoyant des satellites qui font en fait une cartographie de la planète, des nouvelles formations qu'il faut nommer. Et donc, sur Vénus, la planète de l'amour, la planète des femmes, on a d'abord découvert qu'il faisait 450 degrés, il pleuvait de l'acide sulfurique.
Voilà la pression.
À peu près une centaine d'atmosphères. Donc, ça a un peu refroidi, si je puis dire, les ardeurs. Mais en fait, la question, c'est qu'on a ouvert à la compétition à l'international, les noms des femmes. Quel nom de femme on va donner sur ces nouvelles formations? Donc, il y a eu une quarantaine de Françaises, Coco Chanel, Edith Piaf, Marie Curie,
on est sorti des scientifiques.
Bien sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas que des scientifiques, c'est des femmes qui ont influencé leur époque.
D'accord.
Ah bah, il serait temps,
qui ont marqué quelque chose qui est exceptionnel. Mais il ne fallait pas que des femmes connues. Donc, est-ce que vous connaissez Jeanne Villepreux, par exemple, qui a l'équivalent d'un cratère sur Vénus?
Non.
C'est Jeanne une femme Villepreux. De science.
Jeanne Villepreux, c'est une histoire absolument formidable. C'est une jeune bergère qui est née dans le Limousin à la fin du 19e siècle et qui, crevant la dalle, si je puis dire, est montée à Paris. Elle avait des talents, en particulier un talent de couturière. Elle a fait une robe pour un grand mariage d'une Bourbon de Sicile. Et le jour du mariage, elle était très pauvre. Elle a rencontré le prince charmant, le vrai prince charmant, c'est-à-dire un monsieur qui s'appelle James Power, qui est un Anglais richissime, qu'elle a épousé. Vous ne le croyez pas, mais elle l'a épousé. Elle est partie avec lui en Sicile. Et là, c'est extraordinaire. La Sicile, à l'époque, c'était une mer bleue, des poissons partout, une végétation incroyable. Et cette femme qui a un don incroyable d'observation, de dessin, va se mettre à regarder les poissons et va commencer à les dessiner. Et il y a le problème des argonautes. Il y a les argonautes qui sont des poissons qui forment leur coquille, en quelque sorte. Pas vraiment des poissons, mais forment leur coquille. Et il faut les étudier. Et comme ça bouge tout le temps dans l'eau, elle invente une cage particulière que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de aquarium.
Non.
Oui, et cette femme extraordinaire.
Avant, il n'y avait pas d'aquarium.
Non. Elle étudie les poissons, elle les dessine, les plantes. Elle, qui est autodidacte, devient correspondante des académies des sciences et devient extrêmement célèbre et invente justement, par la méthode d'observation, une nouvelle science, l'aquariophilie.
Incroyable.
Donc on s'est battu à plusieurs, pour essayer de convaincre les équipes internationales qu'il fallait lui donner un nom sur Vénus. Et on a réussi, il y a 5 ans, à ce qu'il y ait un cratère Villepreux.
Vous êtes dans l'eau de ceux qui ont essayé?
Bah oui, bien sûr. Oui.
Bravo Alain.
Bah non, mais parce qu'il
le dit modestement comme ça. Mais...
Non, ça veut dire qu'on peut réussir. On peut réussir en prenant des femmes qui sont pas
terminé votre phrase. Parce que là, si la phrase s'interrompt là, c'est-à-dire que ça gâche tout l'effet féministe de la chronique.
Voilà. Non, mais en retenant des talents, en faisant que finalement, par son originalité, elle gagne le ciel. Parce que gagner le ciel, ça veut dire être toujours inscrite dans les atlas internationaux pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est très beau. Quoi.
C'est une très belle histoire, une très belle découverte. Et j'ajouterais à cela ce que j'ai vu dans les rues de Paris ces derniers jours, qui a dû être déposé le jour de la journée des droits des femmes. Ces rues rebaptisées avec des femmes célèbres ou des femmes qui ont fait des choses formidables, toutes les rues collées sur les vrais panneaux, des noms de rues de femmes.
Juste
c'est
une
vachement bien.
Toute petite dernière chose, Scheim, si un jour vous allez sur Vénus, je ne vous le souhaite pas maintenant, parce qu'il faut d'abord être morte depuis au moins 3 ans, mais il y a un seul homme.
L'angoisse.
Un seul homme. Nicolas Duvauchel.
C'est le mont le plus important qui s'appelle le mont Maxwell et c'est le seul homme au milieu de plein de femmes.
Mais évidemment, ils ont donné le nom du mont au milieu des femmes.
Oui, parce que sans lui, on ne découvrait pas ce qu'il y avait au sol.
Ouais. Donc,
bien sûr.
Votre chronique aura-t-elle convaincu Scheim et nos auditeurs? Nous n'allons plus tarder à le savoir.
Europe 1.
À suivre, la question va rapidement se poser une fois qu'on vous aurez franchi le seuil de chez vous. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien les gars, ce soir, on va commencer à se reprendre en main. Regardez Scheim, vous croyez qu'elle s'enquille du pâté en croûte et qu'elle se relève la nuit pour taper dans le pot de Nutella? Non. Le secret du physique de Scheim, c'est une rigueur nutritionnelle de chaque instant. Dans son placard...
Éclair au chocolat, M&M's, macarons, raclette, saucisson...
Tout le monde n'a pas votre métabolisme. Donc ce soir, dans Délices in Extremis, comment cuisiner des fruits séchés?
Ah, c'est sympa.
Oui, c'est sympa, Eva. Parfaitement, à tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
La sueur perle au front de nos valeureux journalistes. À mesure que le dénouement approche, l'angoisse monte et ils sont comme l'esthéticienne d'Eva devant l'ampleur de la tâche à la veille du printemps.
La terrible forêt dont personne ne revient jamais.
Qui sera élu chroniqueur du jour? La réponse est entre vos mains.
Vous Eva, un commentaire peut-être.
Ça, hein. Oui, ouais. Vous pouvez mettre un coup de boule peut-être, ah, vous êtes trop loin.
Non, parce que la violence ne réglera pas tout ça. Mais je prépare ma vengeance.
Mais quelle sera votre vengeance, Eva, exactement?
Je ne sais pas, mais le jour où elle va arriver, vous allez prendre cher. Hein.
Peut-être des sons ridicules. Peut-être des sons ridicules
de
vengeance.
Non, on passera à autre chose. Oui,
ah, on passera à un autre niveau.
Évidemment,
un autre level de vengeance. Mais... aujourd'hui, c'est Chaim qui nous accompagne, la chanteuse, mais surtout la comédienne. Vous la retrouvez demain soir à 21h05 sur TF1 dans la série Profilage. On va le redire pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission. Chaim est bluffante en actrice.
Ah, oui, vraiment.
Merci.
Non, mais vraiment.
Non, parce que c'est ses débuts.
Mais et puis dès la première scène, donc, vous disiez que vous aimeriez bien qu'on commence par les derniers épisodes. Mmh. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous avez tourné tout ça, mais dès les premiers épisodes, on sent que vous êtes à votre place et que voilà. Vous avez trouvé un nouveau terrain de jeu qui vous est très très favorable.
Mais je suis ravie et forcément de l'entendre parce que ça a été très abstrait au départ avant de commencer. J'ai à parler de 3 semaines de coaching. Tout est nouveau en fait.
C'est 3 semaines de coaching? Comment on apprend à devenir comédien en 3 semaines? Il faut quand même être doué, enfin 3 semaines.
Ouais, c'est assez sportif, mais c'est surtout ça nous apprend à nous mettre à l'aise, à répéter mon texte avec un coach, avec quelqu'un qui connaît son métier, qui vous donne des conseils d'élocution, qui vous met en situation. Donc on est dans son appart évidemment, il y a ni les décors ni les costumes, mais qui vous... En tout cas, c'est un premier public. C'est un premier public, c'est-à-dire que si j'ai une séquence à faire, que je puisse la faire en étant triste, avec des nuances ou en étant énervée, ne pas avoir honte de performer finalement. Et c'est déjà une barrière à surpasser avant de se retrouver avec les vrais comédiens sur le tournage.
Alors on disait c'est la 10e saison là, qui débute demain. Est-ce que vous avez déjà signé pour une 11e saison? Est-ce que vous avez déjà signé aussi pour Danse avec les stars?
Non, pas encore.
Pas encore.
Ouais. Enfin, pas encore. Je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est vrai que la dernière année a été assez intense. J'étais sur ma promo d'Agapé, mon dernier album, Danse avec les stars plus Profilage. Et c'est vrai que dans la tête, physiquement, même si on peut le faire, etc., dans la tête, c'est compliqué de passer d'un personnage entre guillemets à l'autre. Et là, ma priorité est évidemment Profilage et les tournages. Donc, on verra comment se profile cette année.
Alors, on le disait, vous avez une ligne parfaite, Chaim. Votre secret, une rigueur nutritionnelle totale. Comme vous le révéliez en interview à nos confrères de Brut.
Il y a des jours où je vais manger un McDo le midi et un Quick le soir. Ça, c'était hier.
Si il n'est pas décédé d'une attaque en entendant cela, je vous propose de retrouver notre expert gastronomique. Il a l'air d'être encore parmi nous. Bonjour Olivier Pouls.
Oh, le pauvre.
Bonjour Mathieu, bonjour Chaim. Oui, effectivement, ça bat toujours. Et je vous avoue, un tout petit peu mieux qu'hier. Je pense être d'attaque très fermement pour la fin de semaine.
Oui, mais enfin, faites attention parce que vous êtes peut-être encore contagieux. On rappelle à nos auditeurs que Olivier Pouls a été victime d'une grippe dont on ne sait pas si elle est corona ou pas.
Écoutez, je ne pense pas. En tout cas, les médecins m'ont dit non. Donc, j'ai tout bon espoir de venir vous retrouver très prochainement et venir vous embrasser.
On verra. Calmez-vous, Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on dîne ce soir, mon cher Olivier?
Effectivement, quand j'entends Chaim et ses derniers petits propos, je me dis qu'une reprise en main s'impose. Alors je comprends qu'elle n'ait pas toujours le temps.
Non, mais c'est pas tous les jours non plus.
Non, mais je comprends qu'elle n'ait pas toujours le temps et c'est pour ça que je vais vous donner un petit truc, une petite astuce, quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez emporter avec vous partout, manger, grignoter quand bon vous semble, qui est très bon pour votre santé et qui est très facile à faire. Ce sont des petits fruits séchés. Alors en ce moment, comme fruits, vous allez prendre des pommes, vous allez prendre des poires, vous pouvez prendre des bananes. Vous allez couper ces fruits en morceaux relativement fins, taille environ un petit centimètre. Vous allez les poser sur une plaque qui va au four, sur laquelle vous avez préalablement déposé une feuille de papier sulfurisé. Et vous faites bien attention que ces fruits ne se touchent pas. Vous allumez votre four chaleur
tournante.
Merci Eva. À la température de 80 degrés, donc c'est pas très chaud, et vous les enfournez pendant 3 heures. Vous ne touchez à rien, vous laissez faire, vous laissez les fruits se déshydrater, se sécher. Ensuite, vous pouvez en faire plusieurs versions, soit une version à emporter, vous mettez ça dans une petite boîte en fer et vous les mangez au fur et à mesure de la journée. C'est excellent, c'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de vitamines, c'est assez calorique parce que les sucres se sont concentrés. mais vous pouvez aussi les servir à l'apéro. Et pour ça, vous faites un petit mélange de sel, d'épices que vous allez venir déposer là-dessus et que vous pouvez grignoter à l'apéro. Vous donnez ça aux enfants, évidemment, à 4 heures, c'est mieux qu'une tartine de Nutella. Et c'est vraiment la solution pour l'hiver.
Essaye de donner ça à un gosse, tiens.
C'est toujours les apéros qui restent sur la table que personne ne mange. Tous les bananes et tout, là.
Exactement. Chaim est d'accord avec moi, vu les grimaces qu'elle a fait pendant votre chronique.
Je préfère les cacahuètes fumées, quoi. Je suis désolée, mais...
Mais bien sûr, balancer les Pringles, tout ça, c'est dégueulasse, Pouls. Dites-nous la vérité, maintenant, après cette chronique pseudo-détox, qu'est-ce que vous allez vraiment bouffer ce soir, Olivier? À mon avis, vous n'allez pas bouffer des fruits séchés, je vous connais un peu.
Non, mais parce qu'on m'a conseillé, pour lutter contre les virus qui sont en moi en ce moment, de doper mon corps, et on m'a dit « viande rouge, mon gars ». Donc, je crois que je vais être obligé de me taper une entrecôte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez?
Oui, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe
1. C'était Délices in Extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette. Les fromages Hermitage, du goût, du partage. Europe 1.
L'excitation est grande parmi nos journalistes en compétition, puisqu'aujourd'hui, en plus de la couronne qui récompensera comme d'habitude le meilleur d'entre eux, le vainqueur aura droit à un live personnel de Chaim qui lui chantera dans le creux de l'oreille un tube de Francky Vincent.
Fruit de la passion, j'aime quand tu touches. Fruit de la passion, oh, c'est super. Fruit de la passion, oh Francky, c'est génial.
C'est quoi ce truc?
On a tous hâte. Je sais pas, mais vous l'avez fait quelque part.
C'est pas possible.
Vous aviez craqué.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage se termine, les amis, sous le regard subjugué de notre invité d'honneur, Chaim, qui, je le sens, a adoré l'émission.
C'est incroyable, c'est une machine de guerre. Tu te prends une grosse claque. En tant qu'artiste, t'as même presque plus envie de retourner sur scène. Tellement que tu te dis que c'est énorme.
Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que Rihanna refuse. Elle connaît le jeu titre,
mais oui,
avec lequel on joue toujours à Cadmerade quand il est notre invité. Bien joué, effectivement, très beau titre. Qui va être sacré chroniqueur du jour? C'est l'heure du qui tout double.
Oui, pas plus.
Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre.
Titre, Alain... pardon. Non, c'est pas beaucoup de secondes.
Alain Sirou, pourquoi Chaim devrait-elle voter pour vous?
Juste parce que j'ai raconté peut-être une histoire où, avec une aiguille qui se transforme en baguette magique...
Titre.
Une femme...
Mathieu Noël, laissez les journalistes...
Oui, pardon, voilà. Pardon.
Une femme accède finalement sur Vénus aux étoiles, quelque part.
Oh oui, un peu de poésie, ça nous fait du bien. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous?
Pour la prise de risque, hein, parce que je suis allé sur un terrain sur lequel nous ne m'attendais pas, un peu comme
grosse,
vous. Avec
grosse prise de risque.
Trop grosse prise de risque. Titre. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous?
Parce que j'ai voulu expliquer que le coronavirus allait tous nous sauver. Donc rien que ça, ça mérite 3 points.
Sur 5 ou sur 10?
Ainsi en a-t-il décidé. Ève Roger, pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Je n'ai aucune raison pour qu'on vote pour moi, mais je voulais dire que j'ai trouvé extraordinaire Chaim, parce que quelqu'un qui se lance dans une fosse, qui est à la fois timide et courageuse et puissante, et ben moi j'ai passé un très bon moment juste pour ça.
La flagornerie marche toujours. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Et ben c'est encore 2 points pour Axel, figurez-vous.
Axel, mais carton plein en ce moment.
Vous n'êtes pas surprise cette fois.
Je suis surprise de votre fan club.
J'ai embauché des Philippins aux Philippines, ça marche très bien. Avec le coronavirus, ils sont chez eux.
Et
bah là, t'as perdu des points tout de suite, je pense.
Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui. Je ne sais pas. Je les donne à Ève Roger. Car c'était une chronique fort intéressante sur les gays plus heureux en amour, selon une étude américaine, que les hétéros. Mais vous le savez ici, mon avis compte peu, c'est l'invité qui décide. Chaim, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jeu?
C'est compliqué. Je vais commencer par dire que c'était hyper intéressant parce que chaque chronique et chaque intervention sont très diversifiées, c'est très éclectique. Et en même temps, c'est frustrant parce qu'on a envie d'intervenir et c'est plein de sujets qui permettent
qui
de. Ouais, qui s'y prêtent et d'en parler pendant une heure. J'ai beaucoup aimé la chronique d'Axel. Parce qu'effectivement, c'est un volet du coronavirus dont on ne parle pas assez et qui est très important aussi, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe sur notre planète. Mais un sujet.
J'étais content comme un enfant et le.
Mais il y a un sujet sur lequel je suis hyper touchée depuis des années. J'aurais aimé passer encore une heure, voire une journée, à en parler avec vous parce que je pense que c'est loin d'être des clichés et on est loin de pouvoir en parler en quelques mots et quelques phrases. Et bien que cette étude soit très intéressante, mais je donnerai mes points à Ève.
Merci.
Et c'est donc Ève Roger. Voilà. Ève Roger remporte la 131e journée de l'équipée sauvage. Elle passe deuxième. On remercie notre invitée Tamara Marthe alias Shine.
Merci.
Que vous allez découvrir comédienne dans Profilage demain soir sur TF1 à 21h05, c'est bien ça Eva ?
Exactement.
Merci d'avoir joué le jeu, Shine.
Merci
également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Axel de Tarlet, Anissé Mbida, Jean-Luc Boujon et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en studio ici même à Paris pour cette équipée sauvage. C'était un plaisir. Demain, vous serez au rendez-vous, assurément, comme chaque après-midi. Salut à vous Mathieu, belle soirée.